Aujourd'hui, dans Réponse avec Belle Scanley.
Mes amis, je vous assure que Dieu peut changer les choses subitement. Nous pouvons vivre un réveil subitement. Si nous trouvons des hommes et des femmes qui se lèveront comme Ézéchias pour la vérité, certains de vos proches qui détestaient Dieu, qui ne voulaient rien avoir à faire avec l'Église ou le christianisme, seront subitement visités par Dieu, transportés subitement dans le royaume de Dieu. Préparons-nous à une saison de subitement.
Bonjour, je suis Belle Scanley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
J'espère que vous êtes prêts pour la parole, car je suis prêt à partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Quand Dieu nous parle, il parle à nos cœurs et cela peut tout changer. Père Céleste, en tant que ton peuple, nous t'invitons à faire une œuvre en nous collectivement et individuellement. Nous savons que tu nous vois, tu connais les difficultés auxquelles nous faisons face, tu sais ce qui nous attend, tu connais notre passé. Nous te demandons, Seigneur, de nous parler par le Saint-Esprit, par ta parole, aujourd'hui. En cet instant, nous mobilisons toutes nos ressources, esprit, âme et corps, et nous nous tournons vers toi pour te dire, enseigne-nous, accorde-nous l'esprit de sagesse et d'illumination, et la connaissance de la vérité, aujourd'hui. Père, notre intention n'est pas d'être simplement des auditeurs ou des personnes qui applaudissent ta parole, mais nous allons passer à l'action. Seigneur Jésus, nous prions que tu sois glorifié dans tout cela. Amen. Amen. Très bien, nous sommes actuellement dans une série intitulée « Prophètes, rois et reines ». Nous nous penchons sur certains prophètes, rois et reines des Écritures et voyons quelles leçons nous pouvons tirer de leur vie. Le week-end dernier, nous avons parlé du roi Josaphat. C'était un homme qui avait des défauts, mais qui aimait Dieu. C'était l'un des rois du royaume du Sud, le royaume de Juda. Israël avait été divisé sous Roboam, le fils de Salomon. Celui-ci avait continué dans les voies de son père, qui s'était laissé aller à la déchéance à la fin de sa vie, en taxant excessivement le peuple et en l'opprimant. 10 tribus ont donc dit au roi Roboam, « C'est fini, tu n'es plus notre roi. Nous ne faisons pas partie de ton royaume. » Ils ont établi une nouvelle capitale au nord, à Samarie. Ces 10 tribus, dont la capitale se trouvait à Samarie, étaient connues sous le nom d'Israël. 2 des tribus sont restées avec pour capitale Jérusalem. Elles sont devenues la nation de Juda. Israël au nord, Juda au sud. Au cours des 200 années suivantes, jusqu'à ce qu'ils soient emmenés en captivité en Assyrie, dans le nord, le royaume du nord, il y a eu 19 rois. Aucun d'entre eux n'a servi Dieu. Aucun d'entre eux n'aimait Dieu. En fait, ils se sont livrés complètement à l'idolâtrie. Le royaume du sud, Juda, qui, soit dit en passant, a duré 130 ans de plus que le royaume du nord, ce royaume du sud, Juda, a finalement été conquis par Babylone et emmené en captivité à Babylone, où ils sont restés un peu plus de 70 ans. L'un des rois du sud, l'un des bons rois, ils ont eu 8 bons rois dans leur histoire, 8 hommes qui aimaient Dieu et qui ont fait de leur mieux pour tourner le peuple et la nation vers Dieu. L'un des bons rois que nous allons examiner aujourd'hui s'appelait Ézéchias. Honnêtement, sa dévotion à Dieu est presque inégalée dans les Écritures. Ce gars aimait Dieu, il a servi Dieu, il a fait confiance à Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Ce qui est étonnant quand on voit l'état des choses lorsqu'il a hérité du royaume. Son père, Achaz, était un idolâtre. Son père, Achaz, a fait la même chose que les royaumes du Nord. Il a érigé des sanctuaires païens. Il a cloué les portes de la maison de Dieu et l'a rempli d'ordures et l'a scellé avec des clous. Il a même fait brûler l'un des frères d'Ézéchias alors qu'il était enfant, au nom d'un dieu démoniaque. Il a sacrifié son propre fils et l'a brûlé vif. À cette époque, les Assyriens avaient presque entièrement envahi et pris le contrôle du Nord. Et maintenant, dans le sud, à cause des péchés du père d'Ézéchias et des générations précédentes, ils sont également vassaux des Assyriens. La situation n'est pas aussi grave que dans le nord, mais ils sont soumis aux Assyriens. C'est à ce moment qu'Ézéchias entre en scène et devient roi. Il n'a que 25 ans. Il a hérité d'une situation difficile. Les choses étaient sombres. Les choses étaient mauvaises. Le mal était absolument partout. Ils étaient dans le pétrin. Nous trouvons son histoire en 2 Chroniques 29, verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il n'a pas perdu de temps, il s'est mis au travail. La première chose qu'il a faite a été d'ouvrir la maison de Dieu. Ensuite, il a rétabli le culte de Dieu au sein du peuple. Il a ravivé le respect des Écritures. Il a rétabli le sacerdoce et les offrandes. Les gens ont recommencé à chanter. Il les a fait recommencer à chanter les psaumes de David. Cet homme aimait la parole de Dieu. Avec Ézéchias aux commandes, il n'a pas fallu longtemps pour que tout Juda s'incline avec révérence, soumission et humilité devant Dieu. Juda était en plein réveil. Écoutez ce que le Seigneur dit à ce sujet. 2 Chroniques 29, verset 36 le dit ainsi. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple. Car la chose se fit subitement. Tout le monde dit subitement. Dieu est un Dieu de subitement. Il agit sur le long terme, mais il fait certaines choses subitement. Dans ce cas, tout le royaume est dans l'obscurité. Tout va mal. Il a hérité d'un régime mauvais. Et subitement, Dieu apporte le réveil au peuple. Je sais que nous vivons dans une période sombre. Je sais que beaucoup de choses défendues par notre gouvernement actuel et par la culture actuelle sont diamétralement opposées aux voies de Dieu. Certaines choses dans notre propre État nous retournent l'estomac quand on y pense, de même que certaines des choses que certains de nos politiciens défendent. Mon ami, je te le dis, Dieu peut changer les choses subitement. Nous pouvons nous retrouver subitement au milieu d'un réveil si nous trouvons des hommes et des femmes qui se lèveront comme Ézéchias pour défendre la vérité. Certains de vos proches qui ont détesté Dieu, qui n'ont rien voulu savoir de l'Église ou du christianisme, vont subitement être visités par Dieu, subitement être transportés dans le royaume de Dieu. Je crois que nous devons nous préparer à une saison de subitement. Il est dit que Dieu a préparé le peuple, je crois que Dieu prépare le peuple. Et que nous allons assister à des choses étonnantes, dont certaines se produiront très rapidement. Pour l'instant, le réveil n'est que local. Il n'a lieu qu'en Juda. Ézéchias n'a que 25 ans. Il ne savait pas que certaines choses ne pouvaient pas être faites. C'était une bonne chose dans son cas. Il est comme la plupart des jeunes de 25 ans, ils ne connaissent pas leurs limites. Ézéchias convoque tous les chefs religieux et leur dit « Mes amis, j'ai prié, Dieu m'a parlé. » Ils ont dit « Vraiment, qu'a-t-il dit ?» Il a dit « Nous allons rétablir la Pâque. » Cela fait longtemps que nous n'avons pas célébré la Pâque. Et je vais inviter toutes les tribus du Nord. Lorsque tous les chefs religieux se sont relevés après s'être évanouis, ils ont dit, « Vous êtes sûr que c'est Dieu qui a dit ça ?» Pensez-y, cela fait 200 ans qu'ils sont séparés, le Nord et le Sud. Le Nord s'est entièrement livré à l'idolâtrie. Cela fait 200 ans que le sang coule entre Juda et Israël. 200 ans de méfiance et de peur profondément enracinés entre eux. À cette époque, les Assyriens, qui étaient les agresseurs, s'étaient déjà emparés d'une grande partie du nord. Et Samarie était sur le point de s'effondrer complètement. Ils avaient déjà emmené en captivité de nombreux citoyens. La plupart des habitants du Nord vivaient dans ce que nous appellerions un territoire occupé par les Assyriens. Cela ne pouvait jamais fonctionner. C'était un rêve impossible. C'était tout simplement trop grand. C'était trop fantastique. Ils ont sûrement répondu, « Votre Altesse, c'est une excellente idée, mais les faits, je me moque des faits. Dieu me l'a dit. » Vous ne comprenez pas, cela ne peut pas arriver à cause de X, Y, Z. Ézéchias dit, je me fiche de X, Y et Z, Dieu me l'a dit, et cela va arriver. Ils ont dit, d'accord, comment cela va-t-il se passer? Ézéchias dit, Dieu m'a donné un plan. Qu'est-ce que c'est, Votre Altesse? Je vais écrire une lettre et les inviter. Et c'est tout. Vous allez écrire une lettre et les inviter, et c'est ça votre plan. Oui, c'est mon plan. C'est fou quand on y pense. Le contenu de la lettre qu'il a envoyée par des coureurs dans tout le nord, où se trouvaient toutes les tribus. Le contenu disait essentiellement « Repentez-vous ». Ce n'était pas du tout une lettre douce. Elle disait « Repentez-vous et revenez au Seigneur. Venez à Jérusalem et célébrez la Pâque ». Mais il a ajouté quelque chose à la fin de la lettre. 2 Chroniques 30, verset 9, voici ce qu'il dit. « Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils seront l'objet de la compassion de ceux qui les ont déportés, et ils reviendront dans ce pays. En effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. » Ézéchias, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Ceux qui les ont déportés, vont-ils les relâcher? Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu dis à ces gens que s'ils se repentent, reviennent à Dieu et viennent pour la Pâque, Dieu va intervenir vis-à-vis des Assyriens et qu'ils vont libérer leurs captifs pour qu'ils puissent revenir dans leur patrie? Ézéchias, es-tu fou? Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous ne voyons pas le genre de résultat que nous aimerions voir dans l'Église aujourd'hui est que les prédicateurs et les chrétiens ont peur de faire des déclarations audacieuses comme celle-ci. Je tiens à vous le dire. Je me moque de savoir à quel point vous êtes liés par des chaînes et des entraves invisibles, peu importe le degré ou la durée de votre dépendance. Jésus-Christ peut vous libérer maintenant. Il peut apporter la paix à votre esprit, il peut restaurer votre famille, il peut guérir votre corps, il peut transformer votre vie. Et il n'est pas obligé de le faire selon un plan de versement échelonné. Il peut le faire maintenant, il est puissant, il est miséricordieux, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Voilà le Seigneur que nous servons. Ézéchias continue. Au verset 10, il est dit... Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon. Mais on riait et se moquait d'eux. Il y aura toujours des gens qui riront et se moqueront, mais le mot suivant est « cependant », tout le monde dit « cependant ». Cependant, quelques hommes issus d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, Dieu intervint pour qu'il soit unanime à respecter l'ordre du roi et des chefs, suivant la parole de l'Éternel. Ce n'est que maintenant que la lettre d'Ézéchias est appelée parole du Seigneur. Avant cela, il pensait qu'il s'agissait juste d'un jeune roi qui parlait à tort et à travers et cherchait à atteindre les étoiles. Mais il réalise maintenant que Dieu était impliqué depuis le début. Certaines personnes ne comprendront jamais que Dieu était dans certaines choses, jusqu'à ce qu'elles se tiennent de l'autre côté et disent « Oh mon Dieu, c'est Dieu qui a agi pour elle, c'est Dieu qui a agi pour lui, c'était Dieu. » Dans les premiers temps de l'Église, je me souviens qu'il y avait entre 62 et 63 personnes un bon dimanche matin. Et nous comptions les femmes enceintes deux fois. Et si quelqu'un amenait un animal d'assistance, bien sûr, nous le comptions aussi. Et Dieu m'a donné une idée. Nous allions faire des affichettes. Il m'a donné un plan. Je l'ai dit à tout le monde, certains ont ri et ont dit, c'est stupide, des affichettes. On a fait des affichettes et ça disait, êtes-vous opprimé? Puis on mettait une promesse de la Bible sur le fait que Dieu vous libère de l'oppression. Avez-vous besoin de paix? Êtes-vous inquiet? Voici une promesse de paix de Dieu. Juste une promesse audacieuse. Vous êtes malade? Voici une promesse audacieuse de guérison. Vous ne savez pas quoi faire, voici une promesse audacieuse. Dieu vous donnera la sagesse. Tout en bas, il y avait une petite partie que l'on pouvait découper et envoyer pour obtenir une cassette gratuite intitulée « Libéré de la peur ». Quelques-uns d'entre nous sont sortis et ont accroché des affichettes dans le quartier. 50 familles se sont jointes à l'église grâce aux affichettes que nous avons accrochées ce jour-là. 50 familles! Cela ne vous semble peut-être pas beaucoup, mais lorsque l'église compte 62 ou 63 membres et que soudain 50 nouvelles familles apparaissent, mon ami, Dieu peut souffler sur une affichette, il peut souffler sur une lettre d'un roi de 25 ans. Lorsque Dieu souffle sur une chose, celle-ci reçoit une nouvelle vie. Voici donc Ézéchias, qui fait les 100 pas dans le palais, suivi par tous les chefs religieux. Et ils disent, « Votre Altesse, c'était de la folie dès le départ. Vous n'auriez jamais dû vous faire de faux espoirs. Ce n'était qu'un rêve fou de toute façon. Vous n'auriez jamais dû le faire. » Certains membres du conseil municipal ont ajouté, « Oui, et de toute façon, c'était contraire au règlement de la ville. Nous ne pourrons jamais avoir autant de monde. Même s'ils étaient venus, vous n'aviez pas le droit d'envoyer une telle lettre. » Il marche de long en large et ils le suivent tous et ils parlent sans arrêt. Soudain, son serviteur s'approche et dit, « Votre Altesse, je pense qu'il y a quelque chose que vous voudrez voir. » Il fait un signe en direction du balcon. Ézéchias s'avance et tire le rideau du balcon. Il donne sur la place de la ville. Il y a une mer d'humanité sur la place qui s'embrasse, loue Dieu et pleure. 100 000 Juifs sont venus en ville. Maintenant, ils sont au milieu d'un véritable mouvement de Dieu. Des centaines de milliers de personnes sont touchées. Un roi de 25 ans, dans les pires circonstances, dans les pires conditions, dans l'obscurité culturelle et spirituelle la plus totale, Dieu accomplit une œuvre étonnante et il continue. Il est écrit en 2 Chroniques 31-20. C'est ainsi qu'Ézéchias agit dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il agit en recherchant son Dieu de tout son cœur et il connut le succès. La chose suivante que nous lisons, 2 Chroniques 32.1, dit « Après ces actes de fidélité, Dieu bénit Ézéchias encore plus, et il vécut heureux pour toujours. » Non, ce n'est pas ce qui est écrit. « Après ces événements et ces actes de fidélité, arriva Sanchérib, le roi d'Assyrie. Il pénétra en Juda et assiégea les villes fortifiées dans l'intention de s'en emparer. » Si nous lisons le récit des rois, nous voyons qu'il est passé à l'acte. En fait, il a pris toutes les villes fortifiées de Juda, puis il a jeté son dévolu sur Jérusalem. Mon ami, après la victoire, attends-toi à d'autres batailles. Tes progrès dans les choses de Dieu ne se feront pas sans opposition de la part de l'ennemi. Jésus sur la montagne de la Transfiguration. La gloire de Dieu est là, Dieu parle, ensuite il descend dans la vallée et rencontre un garçon possédé par un démon. Il passe directement de la présence de Dieu à la confrontation avec le diable. Jésus a dit, quand le semeur sème la parole, Satan vient immédiatement voler cette parole et il apporte l'affliction, la persécution, l'inquiétude et la convoitise des autres choses. Ils entrent tous en scène, le diable les utilise pour étouffer la parole de Dieu. Jésus a dit, Satan vient immédiatement. Je me souviens qu'en tant que tout nouveau chrétien, j'avais convenu avec quelques amis de me rendre à une petite réunion pour écouter un évangéliste qui se trouvait en ville. Il avait loué une petite salle. Ils sont venus me chercher et je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. J'avais l'impression d'avoir été écrasé par un camion de 18 roues. Je leur ai dit, ils ont frappé et sont entrés dans la chambre. J'ai dit, les gars, je ne peux pas venir. Je n'oublierai jamais une certaine fille. Elle m'a attrapé le bras, m'a traîné hors du lit sur le sol et m'a dit, « Bayless, tu viens. » J'ai dit, « Je n'en ai pas envie, mais d'accord, je n'oublierai jamais ce soir-là. » L'évangéliste prêchait sur la parabole du semeur et cela m'a changé. À jamais. C'est peut-être à ce jour le message prêché le plus important que j'ai jamais entendu dans ma vie. Cela a totalement changé la trajectoire de ma vie. J'ai appris l'importance de la parole de Dieu et de la semer dans votre vie, comment elle fonctionne et à quel point le diable la combat. Vous savez quoi? Il y avait de l'opposition. Si vous voulez aller de l'avant avec Dieu, vous allez rencontrer de l'opposition. Notre précédent campus, certains d'entre vous l'ont connu, nous avions construit un beau bâtiment d'église et possédions plusieurs hectares dans la rue Sausalito. L'une des principales entreprises de construction que nous avions engagées était en train de travailler, et le propriétaire de l'entreprise est venu nous voir. Il n'est pas croyant, il nous a dit « Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» Il a dit « Je travaille depuis longtemps dans le secteur de la construction, mais je n'ai jamais été confronté à une telle opposition. Les pompiers s'opposent à nous, les fonctionnaires de la ville s'opposent à nous, et il n'y a aucune raison logique à cette opposition. » J'ai du matériel en parfait état, il ne cesse de tomber en panne. Ce sont les paroles d'un homme inconverti. Il a dit, c'est presque comme si une force invisible ne voulait pas que cette église soit construite. J'ai dit, en fait, oui, il y en a une. Nous nous sommes mis à prier, cette force invisible s'est calmée et nous avons terminé le travail. Nous sommes assis dans ce magnifique auditorium, sur ce magnifique campus. Que vous soyez sur la place ou ailleurs, en ce moment, cela ne s'est pas fait sans opposition. Lorsque nous avons obtenu une propriété, nous avons travaillé sur des plans pendant très longtemps. Ensuite, l'agence de réaménagement de la ville nous a confisqué notre propriété. Ils nous ont interdit l'accès à notre propriété et nous ont dit « Nous la prenons par expropriation et nous allons la vendre à une grande surface ». Il s'agit d'un abus total de cette loi. Ce n'est pas sa raison d'être. Ce n'était pas pour le bien public, ce qui est la raison d'être du droit d'expropriation. S'il faut construire un réservoir ou faire passer une autoroute, c'est une chose, mais le céder à une grande surface, c'est une toute autre chose. Nous nous sommes engagés dans une bataille juridique. Certains d'entre vous étaient avec nous. Cela a duré des années et des années. L'agence de réaménagement a en fait engagé une société de relations publiques pour calomnier l'Église, ce qu'elle a fait avec brio. Le journal local s'est contenté de nous salir pendant des années. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retourner l'opinion publique contre nous. Nous avons prié, et l'une des choses que nous avons faites a été d'engager un juif. Son travail consistait à travailler avec des organisations et à organiser des réunions publiques. Afin que vous puissiez faire passer votre message aux habitants de la commune et qu'ils puissent entendre autre chose que ce que l'opposition racontait. Il a organisé ses réunions, nous les avons faites, puis il est venu me voir. Il m'a dit « Bayless, je fais ce métier depuis longtemps et dans des situations très difficiles. Et la plupart du temps, j'ai l'impression de nager à contre-courant. » Il m'a dit « Mais avec vous, j'ai l'impression de devoir remonter une cascade à la nage. » C'est ce qu'il a dit. Ce n'était pas un chrétien, juste un juif très charmant. Il a dit « Le diable ne veut pas que cette église soit construite, mais nous allons la construire. » Donc, après ces actes de fidélité, le diable surgit. Dès son arrivée, Sanchérib jette son dévolu sur Jérusalem pour la détruire et réduire le peuple en esclavage. Mon ami, le diable ne veut pas que tu réussisses. Nous lisons ce qui se passe dans 2 Chroniques 32, 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier. À ce sujet, ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel à Jérusalem, ainsi que des cadeaux de valeur à Ézéchias, roi de Juda. Celui-ci fut depuis lors tenu en haute estime parmi toutes les nations. Combien pensent que c'est merveilleux? Oui, c'est merveilleux. Mais la chose suivante que nous lisons, ce qui a suivi, au verset 24. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un signe. À cette époque-là, quelle époque? Celle de victoire, de célébration et de délivrance, d'élan vers l'avant, l'époque où Dieu a montré une main forte, où les choses se sont produites. À cette époque, soudain, Ézéchias est malade et mourant. Mon ami, parfois quand il pleut à verse. Nous avons un adversaire très obstiné. Il n'abandonne pas facilement. Il suffit d'être plus obstiné que lui. En terminant, je tiens à vous dire que vous êtes aimé de Dieu. J'espère que vous le savez. Pour lui, vous n'êtes pas un numéro quelconque sur une liste. Vous n'êtes pas une personne sans visage dans une foule. Il vous connaît personnellement, il vous connaît intimement, il connaît la situation à laquelle vous êtes confronté et il veut vous aider. Il vous aime plus que vous ne pouvez le comprendre. Je prie pour que vous mettiez votre confiance en Dieu aujourd'hui. Enfin, si ces programmes ont été une bénédiction pour vous, je voudrais vous demander de prier pour soutenir ce que nous faisons. La plus grande partie de ce que nous faisons est internationale. La plupart de ce que nous faisons à la télévision ne passe pas dans notre propre pays. Nous le faisons dans différentes langues à travers le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui n'en ont jamais entendu parler et pour atteindre ceux qui n'ont pas encore été atteints. Et nous y parvenons parce que les gens prient avec nous et s'associent à nous. Priez donc par rapport à la possibilité de devenir un partenaire pour nous aider à transmettre le message de la parole de Dieu dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.